Chapitre 10 La malédiction des eaux. J'ai aidé Amandine à ôter ses vêtements dégoulinants, puis j'ai allumé un petit feu entre les menhirs à l'abri du vent. Ses dents ont claqué un bon quart d'heure, puis elle a fini par se réchauffer. J'ai demandé « Alors tu sais ce que tu voulais savoir ? La sirène a répondu à ta question ?»« Oui, » a-t-elle balbutié. Les sirènes sont forcées de répondre quand on les interroge. C'est la loi de l'océan. Elles ne peuvent pas mentir sous peine de se changer immédiatement en pieuvre. Et cela, elles ne le voudraient pour rien au monde. Donc, tu es sûre qu'elle t'a dit la vérité? Oui, elle y était contrainte, même si cela la faisait enrager. Elle m'a révélé la formule qui fera sortir mon père de l'étang. Le problème, c'est que cette formule est très compliquée à retenir. Tu n'as qu'à l'écrire. Justement, non. La sirène m'a dit que si j'écrivais cette formule quelque part, ou si je la prononçais devant quelqu'un, elle perdrait aussitôt tout pouvoir. Je n'ai le droit de la crier qu'une fois, une seule, devant l'étang. Je ne disposerai pas d'une seconde chance. J'avoue que je l'écoutais distraitement. En vérité, je pensais aux dernières paroles de la femme poisson. Cette curieuse menace qu'elle nous avait criée avant de disparaître au fond de la mer. Je n'y comprenais rien. Comment l'océan aurait-il pu nous faire du mal si nous nous tenions loin du rivage? J'en ai parlé avec Amandine, mais pas plus que moi, elle ne voyait de quoi il retournait. Comme il faisait très froid, je décidai de chauffer de l'eau pour faire du thé. Ça m'exaspérait de jouer les servantes, mais je voyais bien qu'Amandine n'était pas capable de se débrouiller par elle-même. À force de vivre entourée de servantes, elle n'avait jamais appris les choses les plus simples. Elle m'agaçait, certes, mais elle me faisait également pitié. C'était une sorte de poupée, très jolie, dont la place était au fond d'une boîte, enveloppée dans du papier de soie, à l'abri de la poussière et du soleil. Avec ses cheveux trempés qui pendaient sur ses épaules, son nez rougi par l'eau de mer, elle avait l'air d'une pauvresse. Bon, j'ai ravalé ma colère et j'ai mis l'eau à chauffer sur le feu de camp. « Du thé bien chaud, » ai-je marmonné. « Ça va nous faire du bien. » « J'abrège, sinon ça va devenir casse-pied. » Bref, j'ai versé le thé dans des gobelets en métal. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Au moment où Amandine portait la tasse à ses lèvres, l'eau chaude a littéralement jailli du récipient pour lui sauter au visage. Si elle n'avait pas eu le réflexe de détourner la tête, elle aurait été ébouillantée. D'abord, j'ai cru qu'elle avait fait un faux mouvement, mais elle m'a dit d'une voix tremblante « Tu as vu ? Le thé a bondi hors du gobelet. » « Ce n'est pas toi qui... » « Non, le liquide a jailli de la tasse tout seul. » Comme s'il voulait me faire du mal. J'ai froncé les sourcils. Voilà qui n'était pas banal. J'ai regardé ma propre tasse, à laquelle je n'avais pas touché. Je l'ai tendue à Amandine. Et ça avec celle-là, ai-je dit. Mais tiens-toi sur tes gardes. Ça a recommencé. Dès qu'Amandine a posé les doigts sur l'intabale, le thé a jailli pour essayer de l'atteindre au visage. Comme elle s'y attendait, elle n'a pas eu de mal à esquiver. « C'est de la magie, » a-t-elle bredouillé. « Voilà ce dont parlait la sirène, » ai-je murmuré. « La malédiction. Le génie des eaux commande à tous les liquides. La mer, mais aussi l'eau des puits, des lacs, des fontaines. Il va utiliser cet élément pour essayer de te faire du mal. » S'il le peut, il tentera de te noyer dans un verre d'eau. Il va falloir se montrer vigilante. J'ai décidé qu'il fallait plier bagages sans attendre. Nous n'étions pas en sécurité au bord de la falaise, si près de l'océan. Il était préférable de s'enfoncer dans les terres à l'intérieur du pays. J'ai tout rangé dans les sacoches, puis j'ai aidé Amandine à enfiler ses vêtements de rechange. Même ça, Elle n'était pas capable de le faire toute seule. Elle attendait qu'on lui enfile ses chaussures, qu'on lui noue ses lacets, comme une gamine de 2 ans. Non, mais vous parlez d'un cadeau. Toutefois, je ne lui en voulais pas trop, car elle avait fait preuve d'un réel courage en allant interroger les sirènes. Je l'ai hissée sur son cheval. Elle tremblait sans parvenir à se réchauffer, elle avait la figure bleue. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un nouveau maléfice du génie des eaux. J'ai enfourché ma monture. Le mieux, c'était de trouver une auberge et d'y passer la nuit. On est parti comme ça, moi en tête, la princesse derrière, enveloppée dans sa couverture, claquant des dents. Pas vraiment fringant comme allure. Au bout d'une heure, les chevaux étaient fatigués. Ils avaient soif. Ça m'a embêtée. Comment les faire boire sans s'approcher d'un point d'eau, hein? Plutôt compliqué. Au détour d'une colline, j'ai aperçu un village. J'ai demandé à un paysan s'il y avait une auberge. Il m'a répondu oui. Nous nous y sommes précipités. Sitôt le seuil franchi, j'ai fait briller une pièce d'or aux yeux des gargotiers et j'ai inventé une histoire de barque chavirée pour expliquer l'état de ma camarade. Pendant que la femme de l'aubergiste se chargeait d'Amandine, j'ai mené les chevaux à l'écurie. Nom d'un haricot bleu! Il y avait un puits! C'était bien ce que je redoutais. Les bêtes ont tiré sur leurs brides pour s'en approcher. Elles mouraient de soif. J'hésitais à me pencher au-dessus du trou. L'eau allait-elle jaillir des profondeurs en une gerbe inépuisable qui m'emporterait? J'ai manœuvré la manivelle pour descendre le seau. Je n'étais pas rassurée, comme vous imaginez. Toute cette eau, là, en dessous. S'il lui prenait l'envie de me sauter à la figure, pour sûr que j'en serais sacrément débarbouillée. Je m'attendais au pire, mais comme rien ne se passait, j'ai fini par remonter le seau et donner à boire aux chevaux. J'ai pensé, peut-être que je ne suis pas concernée par la malédiction, puisque c'est la princesse qui a interrogé les sirènes. Ouais, c'était sûrement ça. Moi, j'avais seulement tiré sur la corde. Sans doute que ça ne comptait pas. Tant mieux. J'ai attaché les bêtes, puis j'ai regagné l'auberge. La femme de l'aubergiste m'a souri. J'ai mené la pauvre demoiselle dans sa chambre, m'a-t-elle déclaré. Comme elle avait l'air gelée, je lui ai monté un baquet d'eau bien chaude. Ça va lui ravigoter le sang. Elle en a bien besoin. D'abord, j'ai dit merci, mécaniquement. Puis, l'information s'est frayée un chemin jusqu'à mon cerveau. Baquet, eau. Baquet égale beaucoup d'eau. Des litres et des litres d'eau. Sans prendre le temps d'une explication, j'ai escaladé l'escalier en 3 bonds. Arrivé à l'étage, j'ai appelé. Amandine! Amandine! Elle ne m'a pas répondu, mais un clapotis furieux m'est parvenu de derrière la porte. J'ai foncé. La princesse était là, recroquevillée sur le lit, tandis que du gros baquet de tôle posé au milieu de la chambre, l'eau s'échappait en bouillonnant. C'était incroyable. Le liquide avait débordé. Déjà, il recouvrait le sol et il continuait de jaillir comme si le récipient dissimulait une source intarissable. L'eau était glacée, elle me cisaillait les chevilles. J'ai sauté sur le lit à côté d'Amandine. « C'est le génie, » a-t-elle balbutié. « Il est capable de multiplier par 10 000 la contenance d'un récipient. Il va sortir de ce baquet assez de liquide pour faire flotter un navire. » Je me suis penchée au bord du lit. C'était effrayant, la cuve continuait à déborder. On avait l'impression qu'une rivière y prenait sa source. Une rivière qui se déversait dans notre chambre. J'ai crié, faut sortir d'ici, viens. Je suis désolée, a-t-elle gémi. J'étais épuisée, je me suis assoupie. Quand j'ai ouvert les yeux, l'aubergiste avait déjà déposé le baquet. Il était trop tard. J'ai attrapé Amandine par la main et j'ai voulu l'entraîner vers la porte. Mais l'eau était si froide qu'elle m'a coupé la respiration. J'en avais déjà jusqu'à mes cuisses. J'ai compris que si j'y restais plongée une minute de plus, mon cœur s'arrêterait. J'ai regagné le lit qui commençait lui aussi à être submergé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurlaient les aubergistes de l'autre côté de la porte. « Vous avez renversé le baquet ? Il y a de l'eau partout !» Ils essayèrent d'ouvrir le battant, mais quelque chose le bloquait. La pression de l'eau ou un maléfice, je ne sais pas. Je ne connais rien à ces trucs de sorciers. J'avais l'impression de devenir folle. Il avait suffi de 2 minutes pour que la chambre se transforme en piscine. Ainsi, c'était de cette manière que fonctionnait la malédiction. Le génie n'avait besoin que d'un point d'eau, n'importe lequel, marbre, robinet, baignoire, pour en faire jaillir de quoi remplir un lac. Nous n'étions pas au bout de nos peines. Il fallait prendre une décision, très vite, sinon nous péririons par hydrothermie dès qu'il nous faudrait commencer à nager. Déjà, je claquais des dents. Quand l'eau est trop froide, le cœur s'arrête de fonctionner. Inutile d'essayer d'enfoncer la porte, marmonnai-je. Elle ne s'ouvrira pas. Un charme la tient fermée. À présent, nous avions de l'eau jusqu'au nombril. C'était atroce. J'avais l'illusion d'être coupée en deux par une lame de glace. Soudain, j'eus une idée. La fenêtre! Même si le génie la maintenait fermée, il ne pouvait pas rendre les carreaux incassables. J'espérais de moins qu'il n'y avait pas pensé. Bondissant du lit, j'attrapai une chaise et je la propulsai à travers les vitres qui volèrent en éclats. « Viens, ordonnai-je à Amandine, sortons par là. » C'est ce que nous fîmes. La chambre était située au premier étage, une charrette de foin stationnait sous la fenêtre. Nous n'eûmes qu'à nous y laisser tomber. Inutile de vous dire que les aubergistes nous prièrent de déguerpir sans attendre. J'eus beau faire scintiller une nouvelle pièce d'or, rien n'y fit. C'est de la sorcellerie où je ne m'y connais pas, s'entêta le gargotier. J'ai bien reconnu la malédiction de l'eau. Vous avez interrogé l'oracle des sirènes, c'est ça. Alors vous êtes fichus, mes jolis. Je ne connais personne qui en ait réchappé. Le génie vous retrouvera où que vous vous cachiez. Vous avez vu ce dont il est capable. Il lui suffira d'un verre d'eau pour vous noyer. Et personne ne peut se passer de boire, n'est-ce pas? Tôt ou tard, quand vous mourrez de soif, il faudra bien que vous vous approchiez d'un puits. Alors, tout sera dit. Nous avons repris la route, mais très vite il est apparu que l'aubergiste avait vu juste. Dès qu'Amandine faisait mine de s'approcher d'une mare, d'une fontaine, l'eau se mettait à bouillonner, à s'élever dans les airs comme un véritable geyser, pour lui retomber dessus et essayer de l'emporter. À 2 reprises, je la rattrapai de justesse, alors que le flot la tirait au fond d'un puits pour la noyer. C'était un véritable déferlement, une inondation. À chaque fois, j'en ressortais trempé de la tête aux pieds, au bord de la suffocation. De toute évidence, le génie n'en avait pas après moi. Seule la princesse lui importait. Vous me direz, c'est pas compliqué. Vous n'aviez qu'à éviter les points d'eau, et puis voilà. Tu parles. J'aurais aimé que ce soit aussi facile. Mais la malédiction s'étendait à toutes les formes de liquide. Au bout de 3 jours, même l'eau d'un simple gobelet devenait dangereuse. Imaginez le contenu d'un verre de 20 centilitres multiplié par 10 000, et vous aurez une idée des problèmes auxquels nous devions faire face. 200 000 centilitres, ça fait 2 000 litres de flotte. Chaque fois qu'Amandine essayait de boire, ces 2 000 litres lui sautaient au visage, déferlant sur elle comme une vague, la renversant pour la rouler sur l'herbe. 2 000 litres, ça pèse environ 2 tonnes. Ce qui veut dire qu'elle échappait de justesse à l'écrasement en se jetant de côté. Je vous raconte ça pour vous montrer à quel point notre vie devenait compliquée. Pour couronner le tout, la pauvre fille commençait à crever de soif. Je ne savais vraiment pas quoi faire pour remédier au problème. « Je me dessèche, » gémissait-elle. « Il faut que je boive ou je vais tomber en poussière. »« C'est trop dangereux, » répliquai-je à chaque fois. « Contente-toi de manger des fruits, leur jus te désaltérera. »« Ce n'est pas pareil, » soufflait-elle. « Ils sont sucrés. Après, j'ai encore plus soif. » Il n'y avait plus qu'une solution. J'ai tiré la valise des fonds de ma selle pour l'interroger. Je lui ai exposé le problème en lui demandant de trouver très vite une solution. Elle est restée silencieuse une bonne minute, puis elle a déclaré « Il n'y a qu'un moyen, gagner les hauteurs. Grimper au sommet de la montagne, dans la zone des neiges éternelles, là où il fait si froid que l'eau gèle. La glaciation annulera les effets du maléfice. Et, pour se désaltérer, Amandine n'aura qu'à sucer de la glace. » À première vue, ça ne me semblait pas trop bête. J'ai dit « D'accord, on y va. » Mais ça n'a pas été une partie de plaisir, car il faisait un froid de loup et nous n'étions pas vraiment équipés pour patauger dans la neige. Amandine a pu se réhydrater en glissant des morceaux de glace dans sa bouche. Tout de suite, elle s'est sentie mieux. « Il faut vous éloigner de la côte, » a conseillé la valise. Plus vous mettrez de kilomètres entre le rivage et vous, plus l'effet de la malédiction s'amoindrira. L'erreur que vous avez commise, c'est d'avoir longé le rivage. Il fallait au contraire vous enfoncer à l'intérieur du pays.